Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous dialoguons avec une passionnée du renouvellement conscient et éclairé de la ville de demain. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Camille, j'ai une formation d'architecte et d'ingénieur. J'ai fait à Lyon il y a quelques années. Et je me suis spécialisée un peu dès mes études et puis dans les années qui ont suivi dans la question, on va dire, de la réponse au changement climatique, donc dans l'architecture écologique, la construction à moindre impact sur l'environnement, des actions de rénovation de bâtiments et aussi de renouveau de la ville. En parallèle de ces projets professionnels, j'ai la chance d'enseigner dans plusieurs écoles, écoles supérieures d'architecture ou d'ingénierie aussi, toujours sur ces sujets vraiment environnementaux, de conception climatique, prise en compte du climat dans les projets d'architecture ou d'urbanisme. Et donc, ça fait bientôt 5 ans que je passe dans plusieurs écoles et que j'ai le plaisir de rencontrer des étudiants, des étudiantes et voir essayer de les emmener avec moi dans ces sujets environnementaux. Et c'est vrai que je trouve qu'ils sont souvent assez réceptifs. Et à côté de ça, je suis un peu une amoureuse des aventures en pleine nature, on va dire. Je pratique l'escalade, la randonnée depuis très longtemps et donc j'ai besoin à intervalles réguliers d'aller en montagne, en forêt, retrouver un peu, on va dire, le plein air et la nature. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avant d'avoir conscience complètement des impacts que ça avait sur l'environnement. Donc ça a pas mal aussi construit qui je suis en Asie, aussi au Maghreb, dans le désert, dans la jungle, dans des environnements un peu différents et en Europe aussi. Et puis à la fin de mes études en Australie, ces découvertes un peu aux quatre coins du monde aussi, je pense, font pas mal partie de moi et un peu d'une curiosité que j'espère continuer à cultiver, à rencontrer toujours des choses nouvelles et essayer de rester avec les yeux assez ouverts sur le monde, on va dire. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket. The love don't. Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en 3 mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son? J'écoutais quelques épisodes de l'émission. J'écoute toujours un peu les réponses parce que je trouve que c'est intéressant la façon dont chacun et chacune s'approprie un peu cette question-là. Donc j'avoue que j'avais un peu réfléchi sans avoir forcément formulé une réponse. Pour moi, le vivant, quand même une part qui est un peu ancrée dans l'enfance, un mélange entre beaucoup de vacances passées au contact de la forêt, de la montagne, c'est ce rapport un peu physique au vivant quand on est enfant. Une enfant un peu tout en pieds nus, dans l'herbe, dans la boue, à grimper aux arbres, à collectionner les feuilles, à toujours avoir les poches remplies de cailloux. Donc il y a voilà, très physique au vivant, très dans le toucher, quoi, avant tout. Moi, j'aime beaucoup l'automne parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont assez magnifiques en forêt et en montagne. On voit l'automne arriver, je pense à un endroit où je me rends souvent dans le Trièves. Et quand on arrive dans ce pays, coincé entre le Vercors et l'Oisans, ben, On sait que c'est l'automne, ou que l'automne commence à arriver, quand on voit le paysage, les premiers arbres qui deviennent un peu orange. On voit la saison avant presque même nous d'avoir complètement pris conscience qu'effectivement on basculait vers des jours plus courts. Mais j'aime bien aussi l'hiver parce que ça étouffe tous les sons et c'est autre chose. Le vivant, il fait un peu plus discret à cette saison-là. Il faut chercher les traces dans la neige des oiseaux qu'on n'entend plus. Les arbres, ils sont un peu plus discrets, un peu oubliés parce qu'il n'y a plus leurs feuilles. Ils n'ont pas la même présence physique dans le paysage. Les formes du paysage qui vont ressortir, les montagnes vont peut-être plus ressortir. Donc c'est encore autre chose. Et après, le printemps et l'été, le festival naturel. Elle met un peu tout en avant, elle sort toutes ses couleurs, toutes ses odeurs, peut-être un peu moins discret, un peu moins frugal. Et du coup, je crois que j'aime bien en fait l'automne et l'hiver, parce que c'est des saisons où il faut un peu plus chercher le vivant, il y a un côté un peu détective du vivant, quoi. Il faut guetter les animaux qui sortent un peu moins. Pour moi, le vivant, c'est aussi ça, c'est aussi un peu ce cadre extérieur qui nous rappelle qu'il y a des saisons, quoi. Un goût du vivant. On est allé se balader en forêt de Fontainebleau pour justement faire un peu d'escalade. Et en fait, on n'avait pas pris assez d'eau avec nous. Bon, on a chaud, quoi, et on a vite soif. Et en revenant, je me suis dit, en fait, l'eau, c'est peut-être ça, le goût du vivant. Ce goût que peut avoir l'eau quand t'as soif, en fait, encore plus fort quand c'est une eau que tu peux prendre dans un ruisseau et que tu la passes par une gourde filtrante ou que tu peux prendre à une source. Et là, tout d'un coup, le goût de l'eau qui a peut-être la majorité du temps quand on la boit, elle a pas de goût, sauf quand on a soif. Donc en fait, c'est un peu ce goût qu'on a tendance à oublier, sauf quand on en a vraiment besoin. Et des fois, le vivant, c'est peut-être un peu ça. On a un peu tendance, nous, à l'oublier en tant qu'humain. Et puis, jusqu'au moment où on se rappelle à quel point on en a besoin, quoi. Une couleur. Je suis peut-être un peu guidée par ce que je vois en face de moi en ce moment, quand tu me poses la question, qui est en fait les dernières lumières de la journée sur le ciel un peu nuageux de la Seine-Saint-Denis, là, où il y a des dernières couleurs un peu roses. Les couleurs du coucher de soleil, qui ramène un peu aussi à la question des saisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc ces couleurs un peu dans les tons d'orange qui vont ensuite s'éteindre jusqu'au rouge. J'adore poursuivre les couchers de soleil. Une odeur, j'ai envie d'en dire deux. Il y a forcément l'odeur de la forêt. Et c'est un ensemble d'odeurs, donc c'est un peu difficile à qualifier, mais ce mélange d'odeurs d'écorce, feuilles, des épines de pin, des pommes de pin, en même temps de la terre humide, de l'humus, enfin voilà, toute cette odeur de la forêt vivante, elle s'impose en fait par rapport aux autres, peut-être par rapport aux odeurs qu'on a déjà en nous, et je trouve qu'il faut quelques mètres pour qu'elle arrive, et tout d'un coup on est là, ah oui, ça y est, on est dans la forêt, on le sent en fait. Comme un parfum, on ne sent pas forcément tout de suite quand une personne rentre dans la pièce, puis donc, c'est quand on va s'en approcher qu'on va dire, ah oui, ça y est, il y a un parfum. Et la deuxième, elle est revenue aujourd'hui, c'est vraiment l'odeur de la pluie quand même. Alors que ce soit de la ville ou d'une zone moins urbanisée. Et en fait, d'après la pluie, plus exactement de la fin de la pluie, elle est quand même très forte. Cet après-midi, vraiment au moment où il a commencé à pleuvoir et où j'étais au bureau, j'ai ouvert la fenêtre pour à la fois entendre et sentir la pluie. Et en fait, ça m'empêche de travailler parce que j'ai envie de la regarder, la pluie, j'ai envie de l'entendre et de la sentir, et juste d'être dedans, presque de sortir pour en profiter encore plus physiquement. Pour les sons, l'orage, j'aime bien parce que ça nous rappelle qu'on ne vit pas dans un monde artificiel quand on l'entend, que tout ça n'est pas un théâtre, mais qu'il y a bien un monde vivant qui nous porte, quoi. Donc le son du tonnerre aussi, c'est pas mal, je trouve, dans les sons du vivant qui se rappellent un peu à nous et un peu quand même avec toujours ce sentiment, malgré tout, qu'on est un peu tout petit, quoi. Même si on est dans un bâtiment protégé, il va rien se passer, on sursaute quoi qu'il arrive quand il y a le bruit du tonnerre. Donc c'est un bruit du vivant qui s'impose complètement à nous et à notre fragilité et notre humilité aussi d'être humain, je crois.
Dis-nous, comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Dans mes projets professionnels, c'est aussi un peu ces questions météorologiques et climatiques, on va dire, plutôt climatiques d'ailleurs que météorologiques, qui vont être au départ du processus. Parce que le dessin d'un bâtiment ou d'un quartier passe d'abord par ce rapport au climat. Et à ce climat vivant, en plus à ce climat qui change, L'idée, c'est d'être presque un bâtiment ou une ville qui soit comme un être vivant parmi ce vivant, en fait. Donc, qu'il soit capable de s'adapter et pas de s'opposer à ce climat. Un bâtiment qui est capable de s'ouvrir pour profiter des vents, comme le ferait, un animal pour peut-être se rafraîchir ou de s'exposer au soleil quand il fait froid et qu'on a besoin de profiter du soleil, d'exposer sa façade au soleil, comme le fait le chat en bas de l'immeuble dès qu'il y a un rayon de soleil sur le pas de la porte. Voilà ce qu'on essaye de faire aussi maintenant. Alors, pas juste le climat, mais tous les êtres vivants, le reste du vivant et pas juste le cadre, on va dire. Donc, les animaux, mais aussi la flore, tout ce qui peut circuler autour de nous, de pas trop perturber leur fonctionnement, voire même de un peu préserver ou restaurer, augmenter les zones où ils peuvent se déplacer. Donc, essayer de composer avec les rythmes du vivant, d'essayer de mieux réfléchir les endroits où on implante les bâtiments, par exemple. Se dire, peut-être que là, c'est pas un bon endroit pour implanter un bâtiment parce que c'est un endroit qui est déjà occupé par d'autres êtres vivants. Donc, ce serait bien de les laisser et peut-être même de leur laisser plus de place. Faire retrouver des bâtiments qui acceptent aussi les animaux dans le sens qui peuvent être un peu refuge. Donc, on a beaucoup vu fleurir dans les villes des hôtels à insectes et autres gadgets qui ne justifient pas toujours derrière un mur en béton, par exemple. Donc, il faut essayer de trouver peut-être un peu d'autres approches, mais en tout cas, pour ce qui est de mon métier, de moins construire, de construire en essayant de moins perturber le vivant. Donc, c'est aussi dans le choix des matériaux, dans le choix de rénover plutôt que de démolir et de reconstruire. Donc, tout ça fait un peu partie de l'approche un peu globale d'une architecture et d'un urbanisme qui essaye d'être plus en accord avec le vivant. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on apprend au fur et à mesure. C'est pas forcément beaucoup enseigné quand j'ai fait mes études, en tout cas pas dans les études d'architecture, d'ingénierie ou d'urbanisme. C'est pas directement présent. On a encore beaucoup à découvrir sur le vivant et à comprendre, à intégrer et à respecter, quoi. Je pense qu'il y a des choses qu'on suppose encore un peu. Il va falloir qu'on soit encore plus à l'écoute, je pense, du vivant pour arriver à bien le prendre en compte et à lui laisser sa juste place, lui rendre sa place.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
L'humain a déjà tellement abîmé l'ensemble du vivant que on aurait un peu envie de répondre rapidement en disant déjà, s'il pouvait arrêter d'être en train de l'abîmer, ce serait bien. Mais je trouve intéressant d'essayer de se poser quand même la question dans le sens positif, quoi. Pas juste de se dire qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire, mais qu'est-ce qu'on peut aussi commencer à faire. On a cette chance, on n'est pas les seuls animaux à l'avoir. Hein. Quand même, je crois qu'on l'a poussé un peu loin en tant qu'humain, de facultés qu'on a d'observation, de curiosité, d'étude du vivant, d'être capable d'en tirer des thèses complètes sur le comportement d'une espèce de fourmi. Enfin, je trouve en fait c'est fascinant cette faculté-là de l'être humain, de s'intéresser à ce qui l'entoure avec des fois un degré de passion qui est assez haut. Je crois que c'est peut-être ça qu'on peut apporter au vivant, c'est de continuer à l'écouter, à l'observer, à le goûter, si on veut reprendre les cinq sens de tout à l'heure, à le sentir, à le toucher et du coup à le comprendre petit à petit et à oublier certains préjugés qu'on pouvait avoir, certains schémas qu'on a posés sur le vivant, sur sa manière de fonctionner, à se re-questionner là-dessus pour essayer de se dire non mais en fait c'est pas tout à fait comme ça que cet animal-là il fonctionne, peut-être qu'en fait cet animal-là aussi, il a une forme de rapport à l'art, peut-être que les fleurs ressentent le deuil, je sais pas, il y a des tas de trucs encore qu'on peut comprendre, et je crois que comprendre le vivant, c'est le meilleur outil qu'on a pour ensuite pouvoir mieux le respecter, mieux vivre avec, mieux composer avec. C'est en fait mettre toute cette intelligence qu'on a en tant qu'être humain pour être plus à l'écoute et découvrir tout ça, parce qu'en fait, je crois que c'est fascinant qu'il y a plein de choses à découvrir tout ça, ça peut que nous nourrir et nous aider à mieux, bah, mieux cohabiter, en fait. Pas avoir l'impression qu'on a compris comment il fonctionnait. Et... En fait, non, il faut vraiment prendre le temps de l'écouter et ensuite pouvoir réfléchir à quelle est la manière, meilleure manière ensuite de faire avec ce qu'on en aura appris. Take care of the one who needs you most.
Take care of the one you love. On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, portait sur l'adoption de la nouvelle directive environnementale européenne en avril dernier. La directive environnement, qui comportait jusqu'alors 9 infractions, s'est étoffée pour atteindre un total de 20 infractions, comprenant par exemple le trafic de bois, le captage d'eau, l'introduction d'invasives, ou encore la mise sur le marché de produits néfastes pour la santé humaine ou pouvant causer des dégâts substantiels à l'eau, le sol, la faune ou la flore. Toute infraction peut engager des peines qui exposent les personnes physiques et les personnes morales à de la prison, par exemple, et des amendes un peu salées allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires ou 40 millions d'euros pour les grosses entreprises. Des caractères aggravants peuvent alourdir encore la peine, comme la dégradation d'une zone Natura 2000 ou la connexion à des organismes de crime organisé. Cette directive environnement signifie que tous les États membres, sans exception, doivent se mettre au pas et intégrer cette directive avant mai 2026 dans leur législation. De même, la directive inclut une obligation de moyens pour le contrôle de ces infractions. En France, l'Office française de la biodiversité et notamment sa section de police de l'environnement a ainsi mis en place une version plus exigeante de référencement des infractions commises, l'outil Ocean. Cet outil contient des données bien fournies des profils rencontrés, allant jusqu'au nombre d'enfants ou les études effectuées. Si le droit de l'environnement est encore en étude pour une meilleure application, dans les domaines affiliés comme l'agriculture ou l'urbanisme, il demeure parfois difficile de garder une ligne directrice commune en faveur d'un développement durable et souhaitable. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
En entendant la liste d'infractions que tu évoquais, notamment les dégâts de pollution, je pensais à toute l'affaire autour des algues vertes, par exemple, qui a eu du mal pour l'instant à avoir une traduction en justice. En fait, ce type de cadre européen permettrait sans doute d'accélérer les actions, dénoncer toutes ces infractions qui existent aujourd'hui. La question, c'est toujours comment ça arrive à se mettre en place sur le terrain. Quels moyens seront vraiment dimensionnés, financés? Quelles actions aussi pour accompagner les acteurs qui pourraient être à l'origine de certaines de ces infractions dans leur démarche de transition, comment on les accompagne aussi à prendre conscience des impacts de leur action, à la fois sur l'environnement et pour une grande partie d'entre eux sur leur santé aussi. Comment on met aussi des moyens en face de ça pour être aussi dans la prévention et ça peut être aussi peut-être assez mal vécu dans certains cas. Voilà, une directive venue du haut, pas en contact avec la réalité de terrain. Tu avais aussi évoqué les contradictions avec certaines politiques agricoles. Donc c'est comment on articule tout ça, comment à la fois on continue à renforcer, et là-dessus la directive est tout à fait juste. On ne fait pas bouger les gens qu'avec de la sanction. Il en faut pour que ça bouge, mais il faut aussi en parallèle en fait, du dialogue, des explications et des moyens pour accompagner la mise en place d'autres solutions. Il faut arriver à le faire avec la pédagogie nécessaire pour embarquer tout le monde dans ce récit-là aussi.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Dans des références possibles de lectures qui m'ont un peu inspiré ces derniers temps, il y a une très chouette collection d'une maison d'édition qui s'appelle 369. Ils ont une petite collection qui s'appelle Manuel. C'est des petits livres un peu courts, un petit peu comme des retours d'expérience du terrain. Deux que là j'ai sous la main et que je pourrais facilement partager. Il y en a un qui s'appelle Chichiliane, le loup, l'eau et les communs, et qui est donc un petit peu la question de comment on habite un territoire de montagne face au retour du loup et à la gestion de l'eau, de la ressource en eau. Il donne toujours la parole à des gens avec des avis différents. Donc, ils vont pas forcément, enfin, ils vont pas dans un sens et il n'y a pas vraiment de conclusion à la fin du bouquin qui dit c'est ça qu'il faut faire. C'est plutôt, voilà, bah, il y a eu telle personne qui s'est opposée, voilà son avis, telle personne qui était plutôt pour, voilà son avis. Deuxième petit livre que je pourrais conseiller s'appelle Vercors, vie sauvage et c'est à propos de la réserve écologique qui a été créée par l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS. L'homme, que fait-il sur la Terre ? Avant tout, il essaye de survivre. Puis, il essaye de vivre agréablement, suivant l'idée qu'il se fait de son bien-être, matériel ou spirituel. Et puis, il y a souvent plus. Mais qu'en savons-nous ? Examinons donc ce que nous connaissons de lui. Survivre, c'est respirer. C'est manger, c'est dormir, c'est être à l'abri, etc. Si je respire dans un espace clos, au bout d'un certain temps, l'air devient irrespirable. Si je mange, une partie de ce que j'ai mangé devient déchet. Survivre, c'est donc transformer une partie de ce qui nous entoure en déchet. Les déchets produits par une espèce peuvent être utiles à une autre espèce. Ainsi que l'acide carbonique que nous rejetons sert à la respiration des plantes. Et l'oxygène rejeté par les plantes est nécessaire à la vie humaine. La vie sur la Terre est basée sur l'échange des déchets.
Voici que cet épisode, aux côtés d'une aventurière de la création à l'échelle du citadin, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie. Mais l'aise tremble, tremble être noyée.